Bonjour, nous sommes le mercredi 10 avril et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Le permis d'environnement de l'aéroport de Liège pourrait être recalé par le Conseil d'État, ce qui ramènerait le dossier sur la table du gouvernement wallon à quelques semaines des élections. Les boutiques de mode de milieu de gamme ferment les unes après les autres. C'est tout un segment du commerce non alimentaire qui tire la langue. Le Parlement européen doit voter aujourd'hui le pacte migratoire. C'est l'une des plus grandes réformes de la législature. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour le brief ce matin.
Le brief, cette info, dès 7h.
L'aéroport de Liège se retrouve dans l'incertitude. Son permis d'environnement a été attaqué par différentes associations environnementales devant le Conseil d'État. Alors, l'aéroport de Liège risque-t-il carrément de devoir stopper ses activités? J'ai posé la question à François-Xavier Lefebvre. Voici son analyse.
Dans une note qu'on a pu consulter, l'aéroport de Liège explique que sans ce permis, il ne peut pas fonctionner parce que c'est une question d'assurance. Enfin, voilà, c'est comme une licence pour un conducteur automobile. S'il n'a pas son permis de conduire, ben, il ne peut plus conduire. Et donc ici, si le Conseil d'État rend son arrêt et que ça casse le permis, mais de facto, du jour au lendemain, tout s'arrête. Plus d'avions, plus rien du tout. Ça, c'est avec tous les sous-traitants, toutes les compagnies aériennes, c'est une catastrophe. Il y a quand même 10 000 emplois, il faut quand même le souligner. Donc maintenant, on attend la suite qui semble être politique.
Alors, ce permis, il avait déjà fait l'objet d'intenses discussions au sein du gouvernement wallon. Au final, les partis s'étaient mis d'accord sur 55 000 mouvements annuels, un savant compromis entre les enjeux économiques et environnementaux. Mais aujourd'hui, le risque est donc bel et bien réel que le Conseil d'État casse ce permis et donc retour à la case départ si le gouvernement wallon ne rectifie pas le tir rapidement. Mais en rediscutant un permis qui devait courir jusqu'en 2040 tout de même, est-ce qu'on ne risque pas de rouvrir la boîte de Pandore à quelques semaines des élections?
On peut l'imaginer. Bon, d'abord, il faut dire que donc voilà, il faut le gouvernement doit reprendre la main, et reprendre la main, c'est-à-dire qu'il doit retirer le permis litigieux, entre guillemets, et en écrire un nouveau, sur base de ce qu'il avait accordé initialement. Et on voit que là, maintenant, avec les élections, Écolo semblerait vouloir rediscuter des conditions qui ont été validées, et on parlait de 55 000 mouvements par an, et Écolo voudrait redescendre à 50 000. Ça avait déjà été très compliqué de valider ce premier permis il y a de cela plusieurs mois. Certains observateurs disent que Écolo n'a pas envie de se faire déshabiller une deuxième fois avant les élections.
Et du côté des libéraux, le ministre en charge du dossier, Adrien Dolimont, prévient déjà que toute renégociation sur le nombre de mouvements est absolument exclue. Ça promet. L'antenne belge de la chaîne de vêtements Esprit a été déclarée en faillite. L'entreprise évoque plusieurs facteurs. Le ralentissement économique mondial, une forte hausse des coûts d'énergie et de la logistique, un climat de consommation morose en Europe et puis des loyers élevés pour des magasins surdimensionnés. Bref, tout cela aurait rendu impossible la poursuite des activités d'Esprit en Belgique. La chaîne va donc fermer tous ses magasins belges en gestion propre, une quinzaine sur la trentaine que compte le groupe dans notre pays. 148 emplois seraient menacés. Alors ce n'est pas tellement surprenant. La marque créée en 1968 avait déjà annoncé la faillite de son réseau propre en Suisse le mois dernier et une quarantaine de magasins ont également été fermés en Allemagne. Par ailleurs, si on élargit un peu le spectre, le naufrage d'Esprit n'est jamais qu'une poussée de fièvre supplémentaire dans un commerce de détail déjà bien malade. Superdry lutte aussi pour sa survie. Face à la montée en puissance des sites de vente en ligne et de la fast fashion, les marques de milieu de gamme semblent bien avoir du souci à se faire. Nous reviendrons sur ce basculement dans les habitudes de consommation dans un brief spécial dans les tout prochains jours. La Suisse condamnée pour inaction face au changement climatique. C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne un État pour son manque d'initiative pour lutter contre le changement climatique. Deux autres requêtes du même type ont par contre été rejetées. Celle d'un eurodéputé écologiste français qui visait la France. Et puis celle déposée par six jeunes Portugais. Ils attaquaient là 32 États au total pour Inaction Climatique. François Gemène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une pointure en la matière, spécialiste du climat, membre du GIEC, professeur à la Sciences Po à Paris et à la Sorbonne. Dites-nous, comment faut-il interpréter cette décision et surtout, qu'est-ce qu'elle implique pour l'avenir ?
Je dirais que c'était une décision qui était quand même relativement attendue. Ce qui est presque plus surprenant, c'est que la Cour ait jugé irrecevable les deux autres requêtes qui venaient de France et du Portugal. Mais je dirais que les conséquences de cet arrêt sont assez importantes, en tout cas au moins symboliquement. Pour deux raisons. D'abord parce que la Cour reconnaît que le changement climatique constitue une atteinte aux droits de l'homme. Et donc ça peut ouvrir évidemment la voie à d'autres procédures. La deuxième raison pour laquelle cet arrêt est important, c'est parce que l'arrêt reconnaît aussi qu'il est de la responsabilité des États de s'en occuper, que donc les États portent une responsabilité directe dans le changement climatique, parce qu'évidemment, une ligne de défense des États, c'était de dire qu'eux n'étaient pas vraiment responsables, que c'était les entreprises, les individus, et qu'on ne pouvait pas considérer qu'un État était responsable du changement climatique. Et donc, pour ces deux raisons, il est possible effectivement que cet arrêt crée un précédent qui ouvre la voie à d'autres procédures.
Vous rejoignez donc l'avis de Greta Thunberg quand elle dit que ce n'est que le début en matière de contentieux climatique.
Bien sûr, il faut réaliser qu'aujourd'hui, il y a déjà un peu plus de 1000 procédures de ce type dans le monde, devant différentes juridictions. Donc ce n'est pas uniquement en Europe. Et évidemment, c'est important qu'une juridiction de ce niveau ait rendu ce type d'arrêt. Alors, soyons très clairs, ça n'entraîne pas de conséquences immédiates. Dans les médias, la Suisse n'est pas obligée de faire quoi que ce soit. Mais ça fait monter une pression quand même croissante sur les États pour qu'ils prennent des mesures ambitieuses. Sinon, ils savent qu'ils s'exposent potentiellement à des procès civils, potentiellement à des procès en réparation. On pourrait imaginer que quelqu'un qui développe, disons, une maladie cardio-respiratoire qu'il puisse attribuer au changement climatique en tienne son gouvernement pour directement responsable. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui fait très peur aux États d'avoir demain des procès aux civils qui demandent réparation.
Merci François Gemène. Transformer des véhicules blindés en ambulances destinées à l'Ukraine, c'est la mission qui a été attribuée à la société wallonne John Cockerill Défense. Il s'agit de blindés de petite taille que l'Ukraine utilise déjà depuis quelques temps, des engins assez polyvalents, très mobiles sur tous les terrains, que John Cockerill se chargera donc de transformer en véhicules médicalisés pour l'armée ukrainienne. Ce nouveau contrat fait partie des trois derniers paquets d'aide militaire belge à l'Ukraine, une aide de 412 millions d'euros qui avait été approuvé en mars dernier par le gouvernement fédéral. 204 x4 de type Lynx devraient également rejoindre l'Ukraine avant la fin de cette année. Il s'agit ici de véhicules en fin de cycle dans l'armée belge qui les utilise depuis 2007. Un petit tour à Las Vegas maintenant. Pas pour y jouer, mais la ville américaine reçoit Google Next, un événement que le géant du numérique tient quasiment chaque année, centré sur le cloud. L'édition 2023 de Google Next avait été marquée par la rentabilité. La division cloud du géant numérique avait en effet réalisé ses premiers bénéfices l'an dernier. Et puis l'intelligence artificielle est évidemment aussi au cœur des préoccupations. Et cette année, Google est encore bien déterminée à montrer qu'elle suit le rythme des innovations sur ces deux fronts, l'intelligence artificielle et le cloud. Comme nous l'explique Maxime Samin, il a fait le déplacement jusqu'à Sin City pour l'occasion.
Alors Google est déterminé certes, mais surtout pressé, puisque le géant technologique a avancé de plusieurs mois son événement. Ici aux États-Unis, on n'est que 8 mois après le dernier qui avait eu lieu à San Francisco. Ça se fait désormais à Las Vegas pour suivre en fait l'exemple de ses concurrents comme Amazon par exemple qui fait la même chose chaque année ici. Et dès le départ de l'événement, c'est des grosses annonces technologiques, d'évolution technologique pour convaincre de plus en plus d'entreprises de rejoindre le cloud de Google. Google qui annonce que 60% des startups qui sont actives dans l'intelligence artificielle générative sont sur son cloud. Et qui annonce également plusieurs partenariats stratégiques avec des grandes entreprises comme Bayer, comme PwC, pour amener l'intelligence artificielle dans les entreprises via son cloud, via ses outils.
Pour l'instant, Google est toujours sur la troisième marche du podium du marché mondial du cloud, avec pour 2023 11% de part de marché derrière Microsoft, 24%, lui-même devancé par l'incontesté leader Amazon, 31%. L'Europe a entre ses mains une réforme majeure. Après des années de négociations, le pacte sur l'asile et la migration est fin prêt. Il sera soumis au Parlement européen ce mercredi. Il s'agit d'une gigantesque refonte des législations européennes existantes. Le but, c'est d'unifier la gouvernance des migrations à l'échelle de l'Union. La réforme est censée accélérer le traitement des demandes d'asile, en orientant les migrants vers des procédures différentes selon leur origine et donc selon les probabilités qu'ils obtiennent ou non la protection européenne. Ce pacte européen met aussi en place un mécanisme de solidarité entre les États. Il remplacerait le règlement de Dublin, appliqué jusqu'à présent et surtout très critiqué. Fini donc de faire porter la responsabilité de la demande d'asile au premier pays dans lequel le migrant met les pieds. Mais attention, l'adoption du texte n'est pas gagnée. Les eurodéputés semblaient fébriles hier à la veille du vote. Ils insistent sur l'importance pour l'Europe de ne pas s'enfermer dans un statu quo. À 2 mois des élections européennes, l'enjeu s'avère crucial. Vous connaissez les services de livraison de denrées alimentaires à domicile. Tout est dans la boîte, il ne reste plus qu'à cuisiner. Bien, cela existe aussi pour les chiens, enfin presque. Les toutous, eux, ils ne doivent pas cuisiner. Après 7 ans d'activité, DocChef étend son offre aux chats. Vous pouvez donc désormais aussi l'appeler CatChef. Le concept reste le même, des recettes élaborées par des vétérinaires et composées de viande fraîche, le tout cuisiné dans un atelier du sud-est de Bruxelles. L'alimentation animale, c'est un marché très porteur, en tout cas d'après Alexandre Cardon, le CEO et cofondateur de DocChef.
Oui, nous avons vu que c'était un marché qui croît, tant au niveau des chiens qu'au niveau des chats. C'est une nouvelle tendance qu'on voit apparaître depuis plusieurs années, où les chiens et les chats sont vus comme un membre à part entière de la famille. Et donc, comme ses enfants, en fait, on a envie de bien nourrir son chien et bien nourrir son chat. Et c'est là où nous, avec notre nourriture de qualité et premium, on intervient.
Sur ce secteur, la scale-up belge est en concurrence avec des poids lourds comme Nestlé, avec des marques Félix ou Gourmet, ou encore Mars avec Whiskas ou Sheba notamment. Du coup, DocChef a sa propre stratégie pour se démarquer et ne pas se faire écraser.
La spécificité de DocChef, c'est qu'on a créé une nouvelle catégorie. Donc on cuisine la nourriture fraîche pour chiens, ça n'existait pas avant. Là aussi, donc pour les chats, on crée une nouvelle catégorie, c'est le fait de nourrir les chats avec la nourriture qu'on cuisine nous-mêmes dans notre atelier en Belgique. Et donc il y a ce côté frais qui est mis en avant. Les gens peuvent commander donc sur CatChef et puis on les livre à domicile. Et le point différenciant avec la concurrence, c'est que nous, on offre à ces chats qui sont des stricts carnivores plus de 90% de viande dans nos recettes.
Et DocChef compte actuellement une centaine de collaborateurs. Si CatChef atteint ses objectifs, ils espèrent embaucher encore en avenir. Un petit tour sur les marchés avant de se quitter. Wall Street a clôturé sans véritable direction hier soir. Le Dow Jones est stable, le Nasdaq gagne 0,32%. En fait, on attend les chiffres de l'inflation américaine aujourd'hui et les premiers résultats des grandes banques à partir de vendredi. À Tokyo aussi, on joue la prudence avant ces chiffres de l'inflation US. Merci à Andy Nuérez qui était à la préparation du brief. À demain.